pas avoir ses yeux comme ça, non. La médiumnité par incorporation, et à part les gens qui ont vu Ghost et qui prennent ça pour un film, effectivement, est un type de médiumnité qui est très peu connu, parce qu'il est très peu répandu aussi. Il peut y avoir des confusions avec d'autres types de médiumnité. Le but pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter, effectivement qu'est-ce que c'est, comment ça se produit et comment on le vit. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'évidemment, je suis un médium par incorporation. Je ne vais pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas vécu, que je n'ai pas testé moi-même. Et à côté de ça, vous parler de la médiumnité par incorporation en me basant juste sur mon petit exemple ne m'intéressait pas, parce que forcément, on a une vision des choses, mais pas une vision complète. Donc, quand mes guides m'ont demandé de traiter ce sujet, j'ai pris contact avec quelques médiums en France, 5 en l'occurrence, qui ont eu la gentillesse d'échanger avec moi alors qu'ils ne me connaissaient pas, qu'ils ne connaissaient pas mon travail, et qui m'ont effectivement présenté ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire comment ça rentre dans notre vie, comment on l'accepte, et comment tout ça se met en place, et surtout, à quelle fin ? Pourquoi tout ça ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que je vous fasse un... Alors, rapidement, je vais essayer de... J'ai laissé mon portable, mais il est coupé, d'ailleurs. Si vous mettez vos portables sur avion, ça sera très bien. C'est juste pour avoir un repère horaire, parce que sinon, je peux parler pendant des heures. Donc, juste vous faire un bref retour sur mon expérience. En fait, le premier souvenir de médiumnité, il remonte à mes 12 ans, où j'étais en camp de vacances, alors un camp un peu orienté, puisque c'était un camp de jeunesse chrétienne, donc forcément il y a des moments de prière, des moments d'isolement qu'on n'aurait pas trouvé dans une colo classique. Et j'ai toujours retenu et le nom du village et l'emplacement et tout. C'était à côté d'une petite église romane dans un petit village perdu de l'Ain qui s'appelle Ordonnaz. Alors vraiment, si vous le trouvez, vous le trouverez sur une carte, mais il faut y aller. Et
vous connaissez ?
Oui. Oh, c'est fabuleux. Et ce petit village est resté très gravé dans ma tête et dans mon cœur. Et en fait, y compris pour leur tarte au sucre. À parté. C'est ça que vous en mangez de tarte au sucre que cette semaine-là. Et en fait, donc, dans ce petit moment de recueillement, dans ce petit moment de prière, je me suis assis à côté de l'église, dehors, au soleil, en tailleur, comme en état de méditation. En fait, je ne connaissais rien à 12 ans de ce que c'était que la méditation, avec les mains posées comme ça vers le ciel et les yeux fermés. Et d'un seul coup, j'ai ouvert les yeux parce que j'ai senti en face de moi quelqu'un assis dans la même position que moi, mais avec les mains inversées. Et je sentais cette énergie qui passait de la rien dans mes mains. Et pourtant, avec cette sensation de présence, avec cette conscience que j'étais bien assis en face de quelqu'un, qu'il y avait bien quelqu'un en face de moi. Seulement, il y a 40 ans, on ne parlait pas trop de tout ça. Et quand on était un jeune médium, on n'avait pas de possibilité d'en parler facilement. Moi, j'étais d'une famille catholique avec des idées un peu arrêtées, où tout ce qui est paranormal, tout ce qui est inexplicable, c'est forcément diabolique. Ah, donc, ça ne peut pas être autre chose. Donc forcément, quand à 12 ans, 14 ans, 15 ans, vous avez la porte de votre chambre qui s'ouvre toutes les nuits, que vous ouvrez les yeux et que rien ne bouge, ben, vous pensez que c'est des forces mauvaises qui viennent vous déranger, et c'est la peur qui prend le dessus. Il faut dire aussi qu'il y a une quarantaine d'années, enfin 40 ans et au-delà, notre monde occidental, le seul rapport qu'il avait avec le... Pas que, bien sûr, avec le développement, mais globalement, dans l'esprit des gens, le seul rapport que les gens pouvaient avoir avec les défunts, avec les fantômes, c'était par la littérature ou par les films, où on vous montrait uniquement des choses qui viennent vous travailler, qui viennent vous déranger, qui viennent vous faire peur. Donc, quand on a des perceptions, pour arriver à les comprendre, pour arriver à les accueillir, c'était extrêmement compliqué. C'est pour ça que, d'ailleurs, maintenant, une part importante de mon travail, enfin, j'estime qu'une part importante de ce que j'ai à faire, c'est justement être cet appui pour les gens qui découvrent leur perception, pour systématiquement leur dire « Eh, ça va, n'ayez pas peur, tout est normal. Bienvenue dans le monde des normaux. » Alors, bien sûr qu'il y avait des gens ouverts déjà il y a 40 ans et qu'il y en avait avant, mais évidemment, beaucoup moins et avec beaucoup moins de possibilités de connaissances et de lecture. Tout ça pour dire qu'en fait, à partir de mes 14 ans, j'ai mis des couvercles sur ma médiumnité. J'ai systématiquement, parce qu'on peut toujours bloquer nos perceptions. Bon, quand vous avez ça, parce que vous avez choisi dans votre incarnation d'arriver avec cette compétence, forcément ça va se réveiller régulièrement au cours de votre existence. Et régulièrement, j'ai eu des poussées comme ça d'événements où je sentais bien soit des présences, soit des informations qui me venaient. Mais régulièrement, voilà, je mettais tout ça sous couvert. Et puis en 2009, je suis allé dans une librairie ésotérique à Paris pour discuter comme ça, pour aller chercher un jeu de cartes. Donc rien à voir, la médiumnité c'était dans un placard, c'était voilà, ça me parlait pas. Et j'ai le vendeur qui d'un seul coup s'est arrêté et puis il s'est appuyé sur un meuble. Il me dit mais vous faites pas du magnétisme. Alors je vais pas développer le sujet du magnétisme aujourd'hui, mais forcément ça m'a intrigué. Et donc j'ai commencé effectivement à soigner les gens. Et quelques années après j'ai eu ce besoin d'aller plus loin parce que j'ai beaucoup tâtonné pendant pas mal d'années. Et j'ai eu ce besoin d'aller plus loin et de trouver des formateurs qui allaient me permettre de surtout de prendre confiance en moi, au-delà de m'apprendre des gestes, mais surtout voilà, prendre confiance en moi par rapport à ce que j'étais capable de faire en termes de soi. Pourquoi je vous parle de cet axe du magnétisme? Tout simplement parce que quand j'ai ouvert le magnétisme, franchement, dans ces stages-là, où pendant plusieurs jours, plusieurs heures d'affilée, vous êtes dans un état de vibrations un peu supérieures, mais forcément vous ouvrez des choses que vous n'avez pas spécialement envie d'ouvrir, c'est-à-dire des perceptions tout simplement. Et m'est arrivé donc lors d'un de ces stages quelque chose que je n'ai absolument pas compris. Deux fois en un week-end. La première fois effectivement j'ai senti une présence à mes côtés. Alors ça je recommençais à prendre l'habitude. Voilà, je le reniais pas trop, mais d'un seul coup, j'ai senti que cette présence, elle était de plus en plus présente, pressante, et beaucoup résistée. Et puis à un moment donné, j'ai quand même lâché prise. Et voilà, cette présence a parlé à travers moi. J'ai pas du tout compris ce que c'était. Et le lendemain, le phénomène est allé encore plus loin dans le process. Sauf que je n'avais pas de mots là-dessus et que les gens qui ont assisté n'ont pas compris non plus ce qui se passait. Personne n'a pu me parler de ça. Il a fallu attendre, donc là on était en 2009-2010, il a fallu attendre 2013, j'ai commencé à aller assister du coup à des médiumnités publiques comme ça, des conférences, notamment essentiellement à Rion, donc dans l'association de Sylvie Franck que beaucoup ici connaissent. Et ma médiumnité s'ouvrait de plus en plus, et dès les premières fois où je me suis retrouvé dans l'assistance, cette phrase a commencé à venir, mais dans peu de temps, c'est toi qui seras voilà, de l'autre côté. Non, mais un fan. Et pourtant, voilà, cette phrase revenait régulièrement. Et en 2013, on est allé assister à une conférence d'un médium que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Victor Maya, qui a beaucoup tourné dans la France une dizaine d'années, qui maintenant a arrêté. Il était lyonnais, maintenant il habite sur la pointe bretonne. Et Victor a une stature un peu imposante, comme ça, il est très droit dans sa posture, et on était au premier rang, et puis il se campe devant moi, fixe droit dans les yeux, et il me dit « Vous avez des talents médiumniques ?» Et un peu intimidé, je dis coincé, bon, ce message est pour vous. Et là, Victor met pour la première fois des mots sur ce qui m'était arrivé 3 ans avant. C'est-à-dire qu'il me définit comme un médium par incorporation. Il me dit, vous avez déjà vécu une incorporation, forcément je fais le tilt, je lui dis oui. Il explique à la salle ce que c'est qu'une médiumité par incorporation. Et en fait, Victor finit de me parler en disant, bon, maintenant vous allez arrêter de traîner. Et là, tout s'est accéléré. Enfin, tout s'est accéléré, vous allez voir que je suis quelqu'un de lent. Il me faut du temps. Tout s'est accéléré, d'abord pour l'acceptation de ma médiumité, c'est que j'ai dit, bon, ok, il faut que j'accepte d'ouvrir ces vannes-là. Donc j'ai contacté ma meilleure amie, qui à l'époque était à Londres, et je savais qu'une fois, on s'était retrouvé à Paris, et j'avais senti sa grand-mère à mes côtés, je lui avais exprimé, et donc je lui dis, écoute, est-ce que ça te dit qu'on essaie de voir si on peut contacter ta grand-mère, si on peut avoir des informations? Et Cynthia me dit, ben oui, avec plaisir. Et elle me dit, mais tu sais, ma grand-mère était médium. Je dis, ah. Et Cynthia est d'une famille capverdienne. C'est important parce que au Cap-Vert, le contact avec les défunts fait partie vraiment de leur quotidien, de quelque chose de totalement naturel. C'est pas comme ça l'était chez nous il y a bien longtemps, hein, puisque je vous rappelle quand même que dans l'Antiquité romaine, il y avait les temples aux défunts dans chacune des maisons. Hein. C'était voilà, la vie avec nos disparus était importante. Donc, enfin, c'est important par rapport à la mentalité, je veux dire, capverdienne. Vous allez voir après. Et on essaie comme ça de travailler avec Maria, et Maria qui, dès la première séance, me dit, non, mais vous n'êtes pas là pour travailler un contact défunt, ça vous savez faire, ah bon ? Vous êtes là pour travailler l'incorporation, donc on y va. Ah bon ? Effectivement, cette incorporation se produit. Mais bon, c'est ma meilleure amie, donc je peux me dire, c'est un peu tronqué, c'est un peu faussé, même si effectivement, je lui ai donné des informations qu'elle a vérifiées auprès de ses parents qu'elle ne connaissait pas, mais ça, c'est la médiumnité classique. Voilà, sur l'incorporation, peut-être que, bon, elle est elle-même dans le trip avec moi même si on a, puis peut-être que la visio, ça peut tromper la chose, ben, puisque je vous rappelle qu'elle était à Londres, donc moi en Auvergne, ça faisait quand même bon, beaucoup de choses qui me permettaient quand même de mettre énormément de doutes sur tout ça. Sauf que quand ils veulent nous prouver quelque chose de l'autre côté, ben, ils nous se donnent tous les moyens. Et quand Cynthia en a parlé à sa tante, donc la fille de Maria, sa tante lui dit, je veux bien parler à maman, je veux bien parler à maman. Encore une fois, peuple capverdien, c'est naturel pour eux, il n'y a même pas d'hésitation. Et donc, je me trouve en contact avec cette dame qui est encore plus loin. Elle était à l'époque en Guyane chez sa fille, par écran interposé. Et je me retrouve face à une dame de 81 ans, assez imposante par sa prestance. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous, quoi ? Attends, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ? T'es même pas sûr de tes contacts. Tu vas parler à cette dame. Et en fait, Maria, évidemment, vient. Vu qu'elle veut absolument me faire bosser l'incorporation, mais Maria fait une incorporation, et au moment, à l'instant précis où Maria est rentrée dans mon corps, à cet instant précis, à l'autre bout du monde, Marie-Thérèse explose en larmes, les mains devant la bouche, en disant « Oh, maman !» Là, je me suis dit, bon, ok, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je veux bien, mais là, c'est pas moi. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Tout ça, on est en 2013-2014, il a quand même fallu attendre 2021 pour que j'accepte de faire des incorporations en public. Je vous avais dit que je suis lent. J'ai besoin d'asseoir les choses, j'ai besoin d'être sûr de moi. Il y a bien quelque chose qui me sert d'ancrage, qui me sert de repère, c'est que on n'est pas là pour abuser les gens, et on n'est pas là pour faire croire des choses. Je pense que c'est la médiumnité est une discipline qui demande beaucoup de sérieux et qui ne se prend pas à la légère. Pour vous parler de la médiumnité par incorporation, il faut d'abord faire un point, mais très rapide, parce que beaucoup d'entre vous ici... qui n'a jamais entendu parler de médiumnité? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? D'accord. On va expliquer, pas de souci. Mais s'il n'y a qu'une personne, vous êtes là pour apprendre. La médiumnité, elle passe par vos sens. Les cinq sens. Les deux les moins utilisés, évidemment, sont le goût et l'odorat. Parce qu'ils vont nous donner très peu d'informations. Les informations... L'odorat va être très utilisé par vos défunts quand ils viennent vous voir. Parce que c'est quelque chose de facile pour eux de faire planer un parfum. Ah, le parfum de votre mère, le tabac du grand-père. Quelque chose qui, d'un seul coup, a l'odeur. Vous rentrez chez vous, cette odeur, elle vient pas de chez vous. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très utile. Mais en médiumnité, pour échanger avec quelqu'un, à part effectivement donner cette indication, j'ai une grande odeur de jasmin... que la personne en face lui dit mais mon grand-père, le jasmin était très important pour lui, ça lui rappelait le pays, mais on va pas nous avoir plus d'informations que ça. Pour le goût, c'est la même chose, à part vous dire j'ai un goût de chocolat, votre grand-mère était bonne cuisinière, peut-être un peu gourmande, ça va pas nous amener plus d'informations que ça. Après il y a évidemment la vue, sens beaucoup plus important au niveau de la clairvoyance, et la vue comme la vue en fait va se partager en deux possibilités, soit une vision extérieure, c'est-à-dire que voilà, une personne voit quelqu'un à côté de vous et vous décrit la personne qu'elle voit à côté de vous, c'est-à-dire qu'elle voit des choses que l'œil habituellement ne voit pas, ou des fois en superposition, un peu comme un hologramme qui se superpose sur la pièce dans laquelle elle se situe, où le médium peut effectivement avoir une vision intérieure, comme quand vous rêvez, donc ce qu'on appelle souvent les flashs aussi, c'est-à-dire des images qui s'affichent à l'intérieur de notre tête et qu'on va essayer de saisir, essayer de décrire. Donc la vue est un sens effectivement extrêmement important pour la médiumnité, tout comme l'ouïe, et l'ouïe va avoir cette même distinction entre cette capacité d'entendre des phénomènes extérieurs à vous, des gens qui parlent dans la pièce à côté, des bruits de pas, des bruits de porte, etc. Je vous parlais tout à l'heure du bruit de la porte de ma chambre qui s'ouvrait en pleine nuit. C'était vraiment un bruit extérieur à moi. Et comme ça peut être une ouïe intériorisée, c'est-à-dire des phrases que vous entendez dans votre tête, mais du coup, qu'il va être un peu compliqué de distinguer de vos pensées. Tout le travail d'un médium qui entend va être d'arriver à qui entend intérieurement, va être d'arriver à distinguer si ça vient de lui ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Quand ce n'est pas votre voix que vous entendez dans la tête, que c'est d'autres voix, d'abord vous vous demandez si vous n'êtes pas un peu schizophrène, mais c'est quelque part plus facile que quand c'est votre propre voix interne. Parce que quand c'est votre propre voix interne, il y a cette difficulté toujours d'arriver à distinguer si ce que vous entendez vient de vous ou vient de quelqu'un d'autre, vient d'ailleurs. Pour les gens qui viennent me voir et comme ça qui s'interrogent sur leur capacité, je dis toujours que la grosse différence, c'est que votre mental, il est incapable de s'arrêter. Et d'ailleurs, il ne faut pas essayer de l'arrêter, ça ne sert à rien. Il faut arriver à l'orienter sur autre chose, amener son attention, comme un enfant en fait, il faut amener son attention sur autre chose. Mais je veux dire, quand vous avez une pensée qui vous vient, une de vos pensées, votre mental, il va bobiner, il va tirer le câble. Il va, d'une pensée, vous allez passer sur une autre, puis sur une autre, etc. Et le mental ne peut pas, n'arrive pas à avoir juste à se focaliser sur une seule pensée qui vient. Quand vous avez une information qui vous vient de l'au-delà, et que c'est la même voix dans votre tête, en fait, cette phrase, ces phrases, elles viennent un peu comme des flèches, c'est-à-dire que pouf, ça vient, c'est soudain, et en fait, s'ils veulent vraiment qu'on l'enregistre, ça va être comme une litanie, c'est-à-dire que ça va revenir toujours la même phrase, et notre mental n'arrive jamais à s'accrocher dessus, n'arrive jamais à développer ça. C'est un truc qui vraiment permet aux gens qui commencent à avoir des capacités de se tranquilliser et de faire le distinguo entre « ok, ça, ça vient de moi, ça, c'est vraiment pas de moi ». Et encore une fois, quand on a le doute, ben, on se tait, on ne dit rien, et on préfère attendre une information plus claire et plus sûre, c'est le plus sage. Voilà, mais avec Louis, il y en a cette même possibilité, intériorité ou extériorité. Le dernier sens, c'est le côté sensitif, le côté corporel. Et là, effectivement, vous avez deux possibilités, soit une sensation totalement extérieure, comme quand on vous met la main sur l'épaule, comme quand un de vos défunts vous passe la main dans les cheveux, et vous le sentez vraiment toucher des doigts dans le cuir chevelu, ou voilà. Ou vous avez, ce qui est beaucoup, beaucoup plus important en termes d'information, tout ce que vous allez ressentir à l'intérieur. Moi, je suis essentiellement un médium sensoriel, comme tous les médiums par incorporation, vous allez le comprendre. Parce que, quand un défunt veut me faire comprendre des choses, je reçois les informations sous forme d'émotions, sous forme d'informations intérieures, comme si je vivais la chose. C'est-à-dire que, si la personne est décédée avec un problème pulmonaire, par exemple, ben c'est mes poumons qui vont me faire mal. Et vraiment, je vais avoir cette sensation de douleur. Si la personne avait un problème de hanche, je vais pas avoir cette sensation de pic dans la hanche. C'est vraiment toujours des informations physiques. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur Netflix, sur un médium, un jeune médium américain qui est exceptionnel, à mon sens, et qui reçoit, alors ce n'est pas un médium par incorporation, mais il reçoit comme ça toutes ces informations dans son corps. Malheureusement, dans sa croyance, il part du principe que sa médiumnité, il la paye dans son propre corps. C'est-à-dire que toutes ces informations, progressivement, ça le rend malade. Et effectivement, il a déjà eu des gros problèmes de santé, des gros problèmes pulmonaires, notamment, mais parce qu'il a fixé cette croyance-là. Encore une fois, votre pensée, elle est créatrice. Si vous fixez quelques règles, votre corps, il va réagir en fonction de ces règles. Les informations que les médiums que j'ai consultés et moi-même pouvons avoir, elles ne nous appartiennent pas. Il n'y a aucune raison qu'elles nous rendent malades. Donc, du moment où on les reçoit, on les évacue, on les sort de nous, voilà, on reçoit l'information, mais ça ne m'appartient pas, je ne la garde pas. C'était important de vous expliquer ça parce que la médiumnité par incorporation nécessite l'intégralité du corps physique du médium. Qu'est-ce que la médiumnité par incorporation ? On va commencer par une définition. Je vais tout simplement reprendre la définition de Victor Maillard, parce que je l'ai trouvé très juste. La médiumnité par incorporation nécessite beaucoup d'abnégation, c'est-à-dire un oubli de soi, parce que le médium doit accepter de s'abandonner à l'autre, de s'abandonner à un autre qu'on ne connaît pas. Le médium doit accepter qu'un esprit dont on ignore tout prennent notre corps, l'intégralité de notre corps, pour s'exprimer par l'intermédiaire de notre corps physique. Cela nécessite, et je vais souvent y revenir dans cette conférence, cela nécessite beaucoup de respect des deux côtés. Du côté des médiums, certes, mais beaucoup de respect aussi du côté des guides et du côté des défunts qui utilisent cette capacité. La médiumnité par incorporation, c'est un vrai partenariat entre eux et nous. On a toujours le choix de refuser nos capacités. Mais quand on les accepte, on peut aussi, quelque part, mettre des règles, mettre des cadres, mettre des conditions. Il faut expliquer que la médiumnité par incorporation demande... Enfin, les esprits qui utilisent cette capacité sont des esprits qui sont déjà avancés, du moins qui ont déjà une bonne conscience, parce qu'elle leur demande beaucoup d'énergie. Il faut savoir que ça demande à ces esprits de baisser leurs vibrations pour revenir dans la matière. Si vous avez entendu des conférences ou si vous connaissez quelqu'un qui a fait une EMI, donc une expérience de mort imminente, toutes les personnes vous disent « mais moi je ne veux pas rentrer dans la matière, je ne veux pas retourner dans la matière ». Et tout ce qui les effraie, c'est de retourner dans ce corps physique, dans cette cage dans laquelle on est. Alors, une cage qu'on a choisie, hein, je veux dire, on a choisi notre incarnation, mais quand l'âme prend conscience que c'est beaucoup mieux quand on est libéré, elle n'a pas envie de retourner dans la matière. Et effectivement, pour rentrer dans le corps physique, il y a besoin de baisser l'énergie, il y a besoin de se mettre au niveau énergétique du médium pour pouvoir rentrer dans le corps physique du médium. C'est là où je vais faire de suite un distinguo entre l'incorporation et la possession. Les vraies possessions existent, elles sont extrêmement rares, d'accord ? Beaucoup plus rares que les gens veulent bien le croire. Les vraies possessions sont faites par des esprits qui sont pas forcément mauvais au sens judéo-chrétien du terme, mais plutôt qui vont se retrouver dans une vibration. C'est-à-dire que pour qu'il y ait possession, il faut que l'âme incarnée, en fait, quelque part, soit dans un sentiment déjà elle-même de colère, de haine, enfin, des sentiments extrêmement lourds, ou il faut que l'âme elle soit dans une position d'abandon, c'est-à-dire voilà, je une dépression profonde, je veux plus vivre, je veux quitter ce corps, et les esprits dits mauvais vont alors utiliser cette faille pour venir envahir, tout simplement, la personne qui est dans cette défaillance de base. Dans l'incorporation, c'est pas du tout ça. C'est un deal entre eux et nous. Je veux dire, moi, je sais ce qui se passe, je reste dans le contrôle de ce qui se passe, et c'est un échange. C'est un échange entre le défunt qui veut utiliser mon corps, l'esprit, le guide qui veut utiliser mon corps, et moi-même. On n'est pas du tout sur le même process. Il n'y a pas d'abus. Il y a toujours une confiance mutuelle. On n'est pas du tout sur le même sentiment non plus, sur la même émotion. L'incorporation, c'est pas non plus de la canalisation, du ce qu'on appelait il y a quelques années du channeling, qui était un mot très à la mode, où effectivement le médium va d'un seul coup quelque part perdre un peu conscience parce que le flot d'informations qui arrive est très important. Et du coup, le flot sort à la rapidité et la conscience du médium n'a plus le temps d'analyser toutes les informations qu'il traite. Et du coup, la conscience lâche. Et en fait, mais cette capacité de canalisation, cette capacité de channeling, en fait, ne demande pas une utilisation complète du corps du médium. On va prendre juste tout ce canal du chakra couronne jusqu'à la gorge et avec ce débit d'information qui passe. Voilà. Dans l'incorporation, il y a vraiment tout le corps physique peut être utilisé dans l'intégralité. Alors, comment ça s'impose à nous? Parce qu'avant de vous décrire réellement le processus de comment ça se passe dans le corps,
la première question, c'est comment ça s'impose à nous. Sur les médiums que je consultais, la seule chez qui ça se soit produit très tôt, c'est Véronique Dubois, qui est une médium qui habite en Bretagne. Véronique, ça s'est imposé à elle à 19 ans. Elle allait à une séance comme ça de médiumité publique et elle était avec des amis et d'un seul coup elle a senti un gros choc dans son dos et elle s'est retrouvée à genoux sur le trottoir sans plus pouvoir bouger et elle a vécu ça avec beaucoup de violence. Elle a vécu ça avec beaucoup comme effectivement un abus de son être, quelque part. Donc c'est là où effectivement, on prend le film Ghost, c'est exactement quand cette fausse médium, enfin, une médium qui s'ignore, qui est Whoopi Goldberg, d'un seul coup, l'âme saute en elle, et pour la première fois où elle délivre un vrai message, c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, il n'y avait pas de demande préalable, ça s'est passé pouf, spontanément, et Véronique s'est retrouvée un peu coincée avec ça. Donc, évidemment, ses amis inquiets de ce qui se passait, mais pour d'autres médiums, Bertrand Retailleau et Denis Roman, comme moi, sont des choses qui sont arrivées à peu près au même âge, en fait, c'est-à-dire juste avant la quarantaine. Dans le cas de Denis, il a découvert sa médiumnité comme ça après un choc émotionnel. Et il a commencé effectivement à faire des médiumnités publiques comme ça, rapidement aussi. Et parce que, comme moi, dès le moment où j'ai dit oui, on m'a mis un peu sur le devant de la scène. Sylvie Franck m'a embarqué avec elle sur des médiumnités publiques. Et Denis, ça a été la même chose. Il s'est trouvé très rapidement devant des salles. Et à chaque fois qu'il était en médiumnité publique, il sentait comme des balles de ping-pong qui vibraient dans sa colonne vertébrale, et avec une sensation très désagréable. Mais cette espèce de remonter comme ça, et jusqu'au jour où il a lâché un peu plus prise que d'habitude, et puis effectivement il a senti que c'était toute une énergie qui voulait rentrer en lui, et il a accepté de le faire. Bertrand, ça s'est produit par deux façons, en médiumnité publique aussi. La première fois, il sentait une pression effectivement à la base des reins, et puis d'un seul coup il s'est senti différent. Il a fermé les yeux et il est parti dans un débit de parole extrêmement rapide en pointant les gens du doigt et en leur donnant des informations, et donc il n'a pas compris ce qui s'était passé, la salle non plus d'ailleurs, et quelques temps après, en médiumnité publique toujours, d'un seul coup, il était en train de discuter avec une dame, et d'un seul coup, il s'est mis à danser, et sans pouvoir s'arrêter, il s'est mis à danser, et il disait, tu vois, je danse, tu vois, je danse, tu vois, je danse, et sans du tout pouvoir contrôler ses jambes, et puis il sentait bien que c'était même plus lui qui disait ces mots-là. Et quand il s'est arrêté, la dame lui a dit, mais vous savez, cette personne a été handicapée à partir de ses 7 ans, et son plus grand regret, c'est de ne jamais avoir pu danser. Okay. Donc, voilà, ça s'est imposé. Pour moi, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était dans le cadre d'un stage, à un moment où je ne m'attendais vraiment pas à rentrer dans un phénomène de médiumnité, où je commençais à peine à accepter que ça revienne dans ma vie, où, d'un seul coup, voilà, ça s'est imposé à moi, et ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait avancer. Il y a dans, dans, dans tous ces exemples, même si ça nous a surpris au début, alors pour Véronique ça a été un peu plus violent que pour nous, que pour les autres, mais de suite derrière, il y a eu cette discussion, cet échange avec nos guides pour Véronique elle a mis les choses au clair d'entrée. Elle a dit ok, vous voulez faire ce genre de choses, mais moi la violence j'en veux pas. Donc respect commun, vous me respectez et j'accepte que ça se produise. Et dès qu'on demande quelque chose, on est écouté et ça se rééquilibre. Il y a donc, quand une incorporation va se produire, on va dire des signes précurseurs. Je vous parlais tout à l'heure, donc effectivement, de Denis qui ressentait cette espèce de balle de ping-pong. Maintenant, quand il sent qu'une incorporation va avoir lieu, il a une pression, lui aussi, au niveau des reins, plutôt de, voilà, dans le bas des dorsales. C'est souvent sur l'arrière du corps qu'on le sent. Tous les médiums que je contactais. Moi, c'est plutôt, effectivement, dans les dorsales supérieures. Cette espèce de pression, voilà, comme si on me massait les dorsales supérieures, comme si on m'appuyait sur les dorsales supérieures. Ces signes, ils nous permettent de nous caler et peut-être tout simplement de dire ok, j'accepte que ça se produise ou des fois ben non, là je suis pas prêt, je sens pas la salle ou je sens pas la personne qui est face à moi, et donc me donner cette possibilité d'accepter ou non que ce phénomène se produise. C'est souvent aussi, en signe précurseur, une forme de fatigue qui arrive d'un seul coup. On se met à vailler, on se met vraiment comme si l'ensemble de notre corps était envahi par une grande fatigue. Alors ça, c'est normal. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vous ai dit que les défunts ou les guides sont obligés de descendre en vibration pour venir rentrer dans la matière. Nous, en tant que médium, on est obligé d'avoir un effet inverse, j'allais dire. C'est-à-dire une montée en vibration pour qu'à un moment donné, les deux champs se rencontrent. Et ce changement rapide de niveau vibratoire, en fait, c'est ça qui nous donne cette sensation d'un coup de fatigue, de d'épuisement, enfin de sensations de sensations d'épuisement. Plus on avance, plus on accepte ce phénomène, et plus en fait ces signes précurseurs sont extrêmement ténus. Au début j'avais vraiment l'impression vraiment qu'on appuyait sur ma colonne et vu que je résistais, ils appuyaient encore plus fort, si vous voulez. Maintenant la pression elle est toute douce et elle est reconnue immédiatement dès que je sens les signes. Denis, dès qu'il a accepté totalement l'incorporation, cette sensation désagréable de balle de ping-pong dans la colonne vertébrale a complètement disparu. Donc, c'est toujours pareil, hein. C'est une question de lâcher prise. C'est une question de confiance, c'est-à-dire, je vous fais confiance, je sais que tout va bien se passer. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison que je ressente des choses avec force. Je vous disais que sur la vision, sur l'ouïe ou sur le sensitif, il y a deux types de perceptions. Mais en fait, avec l'incorporation, c'est la même chose. Et dans le stage que je vous citais tout à l'heure, en fait, moi j'ai vécu en deux jours, c'est deux états différents. Le médium, quand il est incorporé, c'est le cas de Véronique, peut totalement perdre conscience. C'est-à-dire qu'elle, elle se retrouve à l'extérieur de son corps, elle voit son corps de l'extérieur, comme si elle faisait une sortie du corps en fait, elle se voit avec son guide à côté d'elle, et elle n'a aucune conscience de ce que fait son corps ou de ce que dit son corps, ce que dit son corps, parce que ce qui est dit par l'intermédiaire de son corps. Et quand elle reprend sa place, elle n'a plus du tout de souvenir de ce qui s'est passé. Pour Denis, Bertrand et moi-même, on est sur un phénomène différent. C'est-à-dire qu'en fait, on ne perd pas conscience. Je donne souvent comme exemple, c'est comme si je suis en train de faire quelque chose qui me demande de l'attention. Je ne sais pas, je fais mes comptes. Et derrière, j'ai la radio qui est allumée. C'est-à-dire que je vais entendre la radio qui parle. Je sais que je suis là, mais je sais que ça parle, mais je ne vais pas entendre, enfin, je vais pas comprendre l'intégralité du message. Je vais retenir quelques mots-clés qui vont me servir ensuite pour discuter avec des gens, mais l'intégralité du message, j'en ai aucune idée. C'est comme si, en fait, mon âme se met légèrement en retrait, suffisamment en retrait pour que quelqu'un d'autre passe, quelqu'un d'autre s'exprime, et moi j'assiste. C'est-à-dire que j'ai cette conscience que mon corps bouge, j'ai cette conscience qu'il y a un discours qui est dit, je capte quelques mots, mais je reste là. Voilà, je n'interviens pas. Ce qui est le cas effectivement pour Denis et pour Bertrand. Dans les deux cas, j'ai remarqué que c'est le même phénomène en hypnose. En hypnose, vous avez des gens qui perdent totalement conscience, enfin surtout sur l'hypnose de spectacle, qui perdent totalement conscience, et ensuite l'hypnotiseur est obligé de leur dire « les souvenirs remontent à la conscience, vous reprenez conscience de ce que vous avez fait, parce que sinon c'est le blackout ». Et vous avez des gens qui, et ça a été mon cas, j'ai été un peu victime de Mesmer, voilà, où en fait, ça m'a permis, je ne regrette pas parce que ça m'a permis de comprendre ce que je vivais en incorporation, du coup. Bien, ce n'est pas totalement la même chose, mais quand même, on est sur le même process, c'est-à-dire que j'étais là, j'étais conscient de tout ce qui se passait et je ne pouvais pas empêcher mon corps de faire des choses. Mais en fait, dans l'incorporation, c'est la même chose. Vous avez des médiums qui sortent de leur corps et qui perdent totalement conscience, et vous avez les autres qui sont dans cet état de retrait. Comment vous, en face, vous savez que c'est plus nous? Comment Marie-Thérèse a explosé en larmes immédiatement quand sa mère s'est incorporée, sans que moi je lui dise quoi que ce soit? Je veux dire, je lui ai pas dit « Ah, votre mère va s'incorporer », je veux dire, j'ai pas fait un préalable. Ça s'est fait et pouf, immédiatement. Pour une bonne raison qui est totalement physique, c'est que vous avez tous votre ADN, qui est votre signature physique propre, mais vous avez tous votre fréquence, qui est votre signature énergétique, qui est la fréquence de votre âme. Et votre fréquence, c'est pas votre fréquence, c'est pas la vôtre. On a tous, je veux dire, quand vous allumez votre radio, si vous écoutez Europe 1, Énergie ou France Inter, c'est pas la même fréquence, tout simplement. Et en fait, quand on échange, quand on se rencontre, on échange d'énergie à énergie avant de se dire des mots. C'est pour ça que certaines personnes, dès qu'elles rentrent dans votre champ énergétique, vous faites un pas en arrière ou vous tournez les talons parce que ce n'est pas possible. Parce que déjà, il y a un échange d'informations. C'est ce qui se passe avec tous les médiums, je veux dire, ou même avec vous, quand vous avez un de vos défunts qui vient vous voir chez vous, moi, quelqu'un qui me dit « mais je pense que c'est ma mère qui vient parce que systématiquement, mais je pense que c'est elle. » Je dis, mais pensez pas. Si vous me dites c'est votre mère, c'est votre mère. Parce que vous reconnaissez sa fréquence. Sa fréquence, elle rentre dans votre champ énergétique et vous la reconnaissez. Vous avez vécu avec cette fréquence pendant de nombreuses années. C'est enregistré dans votre mémoire. Quand j'ai eu quelqu'un en médiumnité une première fois, quand ce défunt revient après, dès le moment où il rentre, je le reconnais. Il y a cette mémoire des rencontres qu'on a pu faire. Donc, du moment où on est incorporé, en fait, vu que mon âme, elle se met en retrait, ma vibration, la vibration que vous, vous ressentez, c'est plus la mienne. C'est celle de l'âme qui est rentrée à travers moi. Donc, c'est cette fréquence que vous lisez. Alors, forcément, si c'est un de vos proches, ben, vous reconnaissez cette fréquence immédiatement et il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute possible. Et c'est un... Je veux dire, quand il dit il n'y a pas de doute, c'est-à-dire que c'est une conviction profonde qui vient de votre profondeur. C'est pas votre mental. C'est cette certitude qui monte parce que, ben oui, vous savez. Vous savez que c'était elle. Vous savez que c'était lui. Alors, comment ça se passe au-delà de cet état conscient-inconscient? Je vous ai déjà expliqué que dans l'incorporation, l'ensemble du corps peut être pris. C'est-à-dire que la position du corps, la gestuelle, les mimiques peuvent intervenir. Si c'est pour vous persuader que c'est vraiment votre proche qui est là, s'ils ont besoin de ça, mais en fait ils vont utiliser, contrairement effectivement à la canalisation, l'ensemble de mon corps, du bout de mes orteils jusqu'à la pointe de mes cheveux. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, l'année dernière, en médiumnité publique, la première fois où j'ai accepté une incorporation en médiumnité publique, j'étais dans une salle de yoga, donc on était tous assis par terre, moi je me relevais juste le temps de donner les messages, et puis à un moment donné je me rassois, et au moment où je me rassois, douleur dans les genoux, et puis je me dis, oh, je comprends pas, je peux pas rester assis, alors que j'étais assis, j'ai fait toute ma conférence assis, donc il n'y avait pas de problème. Et puis je me lève, et puis je secouais les jambes comme ça, et en fait je n'avais pas compris que j'étais déjà en début d'incorporation. Et la seconde après, je me suis immobilisé, enfin j'ai continué à secouer un peu les jambes, et j'ai parlé à quelqu'un. Enfin, pas parlé de suite, j'ai d'abord bien regardé quelqu'un. Et cette personne m'a dit après, c'est son père qui était rentré en moi, cette personne m'a dit après, mais vous savez, mon père avait des gros problèmes de genoux. Il ne supportait pas d'être par terre, d'être à genoux, d'être même assis au sol. Et quand il était obligé, parce qu'il était bricoleur, etc., il passait de longues minutes à secouer ses jambes exactement comme vous avez fait. Ça, moi, j'en savais rien. Et puis, encore une fois, mon corps l'a fait tout seul. D'accord ? Enfin, mon corps l'a fait tout seul. Non. Vous avez bien compris. L'âme qui s'est incorporée a utilisé mes jambes pour faire vraiment... Parce que son fils, quelqu'un à qui il faut vraiment des signes très importants pour accepter les choses, ben là, physiquement, il lui a montré quelque chose qui vraiment pouvait le convaincre que c'était vraiment lui. Donc, tout le corps peut être pris en compte. On peut effectivement se mettre à boiter. On peut, je vous disais tout à l'heure, donc Bertrand qui s'est mis à danser. On peut avoir des tics de gestes, ou je sais pas, moi, une épaule qui d'un seul coup se redresse. Enfin, ou au contraire, on va se voûter. Enfin, c'est-à-dire que le corps va prendre les mimiques que la personne avait de j'aime pas dire de son vivant, c'est les mots qui nous viennent tout le temps, mais non, de sa vie incarnée. Parce qu'ils sont beaucoup plus vivants de l'autre côté que nous, je trouve. Alors, le corps, oui, mais du coup, s'ils utilisent le corps, ils utilisent l'intégralité du corps, c'est-à-dire la voix aussi. La voix, alors, s'ils utilisent notre corps, ça veut dire qu'ils vont utiliser nos compétences. Ils ne vont pas nous faire faire des choses qu'on n'est pas capable de faire, naturellement. Donc, la voix, dans mon cas par exemple, oui, ça va être ma voix. Sauf que c'est le phrasé qui va changer, c'est l'intonation, peut-être le volume, c'est toute la linguistique. C'est-à-dire que le défunt va utiliser un langage que lui utilisait, qui n'est pas forcément mes tournures de phrase. On a tous notre façon de parler. Les endroits où on met les accentuations, et ça dépend de chacun d'entre nous. Et voilà, donc ça va jouer là-dessus. Sauf que pour certains médiums, alors Véronique un petit peu, mais J'ai surtout trouvé une médium qui s'appelle, que j'ai trouvé dans un documentaire, qui s'appelle, elle est hollandaise, je crois. Elle s'appelle Nicole de Haas, où Nicole de Haas, en fait, change carrément de timbre. C'est-à-dire que si elle a un homme, si elle a une femme, si elle a un enfant, elle ne va pas du tout avoir le même timbre, et même entre deux femmes ou entre deux hommes. Et alors, je me suis dit, mais comment c'est possible? Et ils m'ont donné la réponse, c'est tout simplement le même principe qu'un imitateur. C'est-à-dire que cette dame, naturellement, a des capacités d'imitation, et du coup, les défunts vont utiliser cette capacité-là, de ces cordes vocales, pour s'adapter, pour pouvoir transmettre vraiment une variation du timbre, pour aller encore plus loin dans la preuve du phénomène qui se passe. Timbre phrasé, linguistique, on peut aller effectivement plus loin. Denis est anglophone, mais il s'est formé assez tard et il n'avait pas un anglais très littéraire, mais il avait quand même une belle connaissance de l'anglais. Et un jour, en incorporation, il s'est mis à parler anglais, et avec un anglais extrêmement littéraire, avec des expressions qui ne sont plus utilisées, et qui sont vraiment de la haute société, pas du langage courant. Lui, il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait, et la personne après lui a dit, mais tu te rends compte du niveau de langage que tu as utilisé? Il dit non. Donc la personne lui a recité des expressions, c'est des expressions que lui ne connaissait pas. Sauf que dans sa capacité intérieure, l'anglais, il avait déjà cette capacité. Donc ils utilisent des choses qu'on a en nous. Ça, c'est une évidence. Au-delà de ça, on peut encore aller plus loin sur un phénomène qui s'appelle la transfiguration. Alors, la première trace dans les écrits qu'on trouve de la transfiguration, c'est dans la Bible. Puisqu'il est dit dans la Bible qu'il y a un épisode où sur le visage du Christ apparaît les visages de deux des prophètes. Et vraiment avec ce mot de transfiguration qui est utilisé. Le médium qui a vraiment présenté la transfiguration au grand public, c'est Jean Fabrice, qui est beaucoup tourné en France, qui effectivement amène les gens. Alors, je ne suis pas trop d'accord sur le process dans lequel il le fait, mais par contre le phénomène est réel, et je sais qu'il se passe vraiment quelque chose, pour l'avoir vu, pour l'avoir vécu. Pour moi, il n'y a pas de tromperie sur ce qu'il présente. Par contre, dans le process dans lequel il met, il peut y avoir un problème dans la mesure où quand on place les gens dans le noir, on leur demande de plisser les yeux, au bout d'un moment, la fatigue visuelle va vous faire voir ce que vous voulez voir. Donc, j'ai juste Mais par contre, le phénomène est réel. Sauf que quand il se produit, très honnêtement, vous n'avez pas besoin d'éteindre les lumières. Ça s'est produit deux fois dans mon cas, et les gens qui y ont assisté, on était dans une salle, alors certes, elle n'était pas éclairée, mais on n'était pas dans la pénombre, et les gens ont clairement vu ce qu'ils m'ont décrit après. Parce que la transfiguration, moi, je ne peux pas la sentir quand ça se produit. Dans mon corps, vu que je suis en retrait, de toute façon, je n'ai pas cette perception de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est la transfiguration? C'est la possibilité de voir sur le visage du médium un autre visage que le sien. Donc le visage de votre défunt ou une énergie différente. C'est comme un hologramme aussi, voilà, qui se superpose. Et quand ça s'est produit, c'était pour c'est devant une de mes amies, c'était de son frère qui s'est incorporé et qui a voulu parler à sa sœur et qui a voulu lui montrer vraiment qu'il était là. C'est quelque chose d'un... qui peut être effectivement émotionnellement pas éprouvant. Le mot c'est pas éprouvant, mais bouleversant, parce que cet ami-là n'arrivait même pas à me regarder. Et son frère lui disait, mais regarde-moi. Mais elle était tellement bouleversée intérieurement que c'était compliqué. Donc, c'est pas un phénomène qu'ils vont utiliser beaucoup, mais ils peuvent. Ils peuvent, avec comment dire ? Je pense très honnêtement que autant quand l'incorporation se fait que quand des degrés supérieurs comme ça se produisent, le moment est toujours choisi. C'est jamais par hasard, c'est jamais... De toute façon, c'est jamais au mauvais moment, ça c'est sûr. Nos guides ou nos défunts savent très bien ce qu'ils font au moment où ils le font. Donc l'incorporation... C'est un peu comme, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une transe chamanique sans la transe. Dans une transe chamanique, effectivement, le chaman, à force de jouer du tambour, à force de faire des incantations, les vrais chamans vont avoir cette incorporation d'esprits qui viennent pour soigner, qui viennent pour dire des choses. On est sur quelque chose de très similaire en fait. La seule différence, c'est que effectivement, les médiums par incorporation ont juste cette obligation de faire attention à eux, de faire attention à leur équilibre, plus qu'un médium normal, je dirais, parce que il faut que mon corps aille bien pour que ça puisse se produire. Si je suis fatigué, si je suis malade, il est évident que ça ne peut pas se produire. Je ne suis pas dans mon état, je veux dire, si j'abuse de l'alcool ou d'autres stupéfiants, ça ne peut pas se produire. Voilà, on a besoin d'avoir une hygiène de vie et une hygiène énergétique. Là où c'est très important aussi, c'est que du coup, on a besoin d'un ancrage. De toute façon, toute personne qui travaille avec l'énergie ou en médiumnité a besoin de l'ancrage. C'est la première règle que je donne. Certains, vous les écoutez, il faut être que ouvert là-haut, que là-haut, là-haut. Et on a des gens qui se perdent complètement et qui déraillent complètement parce qu'ils oublient que pour être bien connecté là-haut, c'est comme dans le chant. Si vous voulez faire des notes très aiguës, il faut aller les chercher très en bas. C'est exactement ça, c'est-à-dire que pour avoir une bonne ouverture, il faut être bien ancré dans le sol. Ça, c'est une première règle de base. Quand l'âme sort du corps, j'ai eu la chance d'avoir deux personnes qui ont vu ce qui se passait, donc elles ont pu m'expliquer, parce que nous, évidemment, on a juste une sensation physique, moi je sais que ça sort derrière, au niveau souvent de la bosse de bison, la septième cervicale. Je crois que c'est Véronique qui a plutôt une impression que ça sort au niveau du bindu chakra là, sur l'arrière du crâne, mais au-delà de ça, nous on n'a pas d'autres informations. Moi j'ai deux personnes différentes qui m'ont décrit ce qu'elles ont vu quand ça s'est produit, c'est-à-dire vraiment une énergie qui d'un seul coup sortait effectivement de l'endroit où moi je le sentais. C'est-à-dire, sans que je leur ai dit avant, que, évidemment, vraiment, ils ont vu une boule d'énergie qui sortait de l'arrière, comme ça, de ma colonne. Pour nous, c'est une sensation, c'est souvent une sensation, c'est là où je vous disais que l'ancrage est plus que nécessaire, c'est souvent une sensation de chute. C'est normal. Notre énergie, il y a cette rencontre entre ces deux énergies, cette énergie qui nous tire vers le haut, nous lâche, on fait un peu comme l'élastique, on redescend. Donc on a cette espèce de sensation de chute, et souvent ça s'apparente à un déséquilibre. D'ailleurs, ben, régulièrement, heureusement qu'il y a une table ou qu'il y a des fois une épaule ou une chaise pour nous retenir, parce que sinon, on pourrait effectivement perdre l'équilibre, le temps de que notre âme elle se réaligne et qu'elle se mette bien dans l'ancrage nécessaire. Et c'est là où effectivement on ressent tout ce poids du corps et toute cette matière dans laquelle on est. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'une âme qui s'incorpore, elle le fait toujours en conscience et qu'elle ne va pas s'amuser à s'incorporer pour le plaisir. Parce que cette descente dans la matière, ils n'en ont pas envie. L'année dernière, toujours, quand j'ai fait mes premières incorporations en public, j'ai une jeune femme qui était partie à 19 ans, qui s'est incorporée pour parler à sa mère. Sa mère l'a reconnue de suite, elle l'a reconnue dans le sourire, elle l'a reconnue par l'énergie aussi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis cette jeune femme extrêmement souriante est repartie. Donc la mère est venue me voir après, puis on a discuté un peu, et puis quelques temps après, elle a repris rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Donc une consultation plus longue. Et de suite, je l'ai mis en garde. Je lui ai dit, attention, c'est pas parce que votre fille s'est incorporée en public, parce qu'elle voulait vraiment vous dire, je suis là, qu'elle va le refaire. Elle me dit, mais ça va, j'attends pas, je sais. Bon, mais je voulais être clair, parce qu'elle ne vienne pas pour être déçue après, en disant, mais pourquoi, machin. Et sa fille, effectivement, pendant la consultation, a dit à sa mère, mais... Ah, tu m'as vu en direct une fois, ça ne se reproduira pas, hein, parce que la descente dans la matière... Non merci, je l'ai fait vraiment pour te faire plaisir, pour te dire, allez, maintenant tu te boostes, tu revis, enfin tu reprends ta vie en main, mais voilà, t'as compris, je recommence pas. Donc il y a vraiment, en plus on a même eu du coup ce que je vous avance, ça m'a été confirmé par cette jeune femme, dans sa propre expérience. Quand les guides nous incorporent, forcément vous ne connaissez pas leur vibration, vous n'allez pas reconnaître la personne. Mais quand un guide nous incorpore, vous sentez une énergie qui est plus la même. Vraiment, souvent les gens ont du mal à décrire l'énergie qu'ils ressentent. Quelque chose qui vous envahit, qui vous traverse, qui vous enveloppe. Il peut y avoir un phénomène assez global. On sent de suite qu'on est sur un autre degré. Le regard est extrêmement important. Je n'ai pas parlé tout à l'heure des yeux dans l'incorporation. Ils font passer beaucoup de choses par le regard, mais les guides essentiellement. Les défunts aussi, parce qu'ils insistent sur ce regard. Moi, au début, si je suis quelqu'un, voilà, vous avez bien compris, dans le contrôle, au début, je mettais tout mon contrôle dans le regard. Donc, l'incorporation se passait bien, le message se passait bien, mais les gens étaient terrifiés par le regard, parce que le regard était dur. Vraiment un regard de roc, parce que, quelque part, mon âme disait, ok, là, là, je tiens le contrôle. Là, je reste là. Mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait travailler ça en me disant, non, lâche le regard. Lâche le contrôle. Tu risques rien. Et progressivement, effectivement, le regard a complètement changé. Le regard est extrêmement important chez les guides beaucoup, parce que de regard à regard, ils vous font passer une énergie, ils vous font passer des choses, ils vont insister sur des mots en plongeant ce regard à travers le vôtre. Il y a souvent chez le public une forme d'intimidation quand c'est les guides qui nous incorporent, parce que on se sent un peu tout petit, on se sent un peu comme un élève en CP devant sa maîtresse ou son maître, avec cette forme d'intimidation. Cette forme non, il n'y a pas d'autre mot, d'intimidation. Quand les guides nous incorporent, c'est toujours pour... ça va être pour donner des directions, quand c'est en privé par exemple, donner une direction, donner un enseignement à l'individu. Quand c'est en public, c'est aussi pour une forme d'enseignement, c'est une forme de transmission d'informations, transmission de direction à prendre. C'est jamais d'ordre, c'est jamais de choses que vous devez faire. Ils ne sont pas là-dedans, ils sont dans un accompagnement, mais nous restons libres de nos choix. Ça peut aller très loin. Vous savez que nos défunts, enfin, depuis l'évolution du numérique, toutes les personnes du monde subtil adorent ça parce que justement, c'est des ondes, donc ils peuvent jouer beaucoup plus facilement avec. Une fois, j'avais une de mes patientes à Manchester, et donc en visio, son guide m'incorpore, et à chaque fois que son guide m'a incorporé, puis est sorti, puis est revenu, sorti et revenu une troisième fois. Donc entre-temps, j'avais le temps d'échanger avec ma patiente, et à chaque fois que la guide m'incorporait et parlait à Marion, à chaque fois, en même temps, dans ses écouteurs, dans ses baffles, il y avait un son de cascade d'oiseaux. Allez comprendre. Et quand elle se partait et que je reprenais la parole, ce bruit disparaissait. Et les trois fois, pouf, ce bruit est revenu. Je dis bon, ok, on accueille, et puis on accueille, ça fait des exemples, on accueille. Nos guides vont aussi nous incorporer pour des soins, tout simplement, pour vous soigner, pour amener un nettoyage dans votre énergie. Je vous ai parlé de mon développement en tant que magnétiseur. Pendant de nombreuses années, je n'ai pas compris, parce que, oui, j'avais mis de côté ma médiumnité, mais après j'ai essayé de raccrocher les morceaux, j'y arrivais pas. Effectivement, mes confrères, en posant la main dans l'énergie de leurs patients ou en posant la main sur le corps, avaient des informations du corps, des informations, enfin, une lecture du corps, une lecture de l'énergie de la personne. Et moi, je sentais bien que je soignais, j'avais bien de résultats, mais alors, ces informations-là, jamais. Et c'est tout simplement parce que ce n'était pas ce que je devais faire. Le jour où j'ai accepté cette médiumnité par incorporation, je me suis mis un jour comme ça, j'ai été poussé sur une de mes patientes à laisser sortir des sons. Et très rapidement, je me suis rendu compte que quand je me mets en position de soin, en fait, je suis déjà aussi. C'est aussi une forme d'incorporation. C'est-à-dire que du moment où je pose mes mains sur mes patients, mon âme, elle se met en retrait. Et un guide guérisseur, on va dire ça comme ça, prend ma place et fait, à la fois avec l'énergie des mains, mais à la fois avec le son, avec le chant, des soins sur la personne. Mais des soins qui vont très loin parce que par ces soins-là, on va nettoyer effectivement les émotions de la personne, on va aller dans le corps physique, mais on va aussi nettoyer des choses karmiques, des choses d'autres plans. Et tout ça, ça c'est fait naturellement, ça s'est installé naturellement. Et d'ailleurs, je le sais parce que c'est pas moi, parce que quand mon mental... alors déjà, pour deux raisons. La première, c'est que pour une raison de ma vie personnelle, j'avais ma voix, pourtant je chante depuis que je suis enfant, mais j'avais ma voix qui, dès que je chantais, s'enrayait, à cause d'un blocage psychologique. Et puis dès que je chantais, même à titre personnel, ne serait-ce que deux chansons d'affilée, c'est bon, j'avais les cordes vocales en vrac. Là, ça a commencé, pouf, paf, 20 minutes de chant, et ma voix nickel. Ok, d'accord. Bon. Et le deuxième plan, c'est que quand je suis avec mon patient et que le son sort naturellement, et d'un seul coup, ma conscience reprend le dessus, je pense à quelque chose, ou d'un seul coup, je me dis, mais tiens, pourquoi pas tel son, alors qu'il n'y a aucune raison que je me pose cette question-là. Je vais mettre, pouf, sur 3-4 notes, je vais chanter faux. Vous voyez, cette bascule entre, comme si je changeais d'instrument et du coup il y avait un réaccord. Donc je dis, ok, je lâche prise et tout repart. Mais il y a toujours ces petits moments où, de l'autre côté, il nous prouve voilà, que c'est pas nous qu'on doit lâcher et que laisse tomber, tout va bien. Alors effectivement, quand les gens me disent à la fin d'une séance de soins, qu'est-ce que vous avez perçu, qu'est-ce que vous avez eu comme information, ben, je leur dis, mais j'en ai pas. Ben, c'est normal, encore une fois, puisque moi je suis en retrait et que c'est autre chose qui se passe. Alors, en conclusion, l'incorporation, c'est quelque chose de génial, c'est sûr, mais c'est quelque chose qu'on ne recherche pas. Je ne sais jamais si ça va se produire ou pas, quand ça va se produire. Ils me préviennent toujours au dernier moment. La semaine dernière, j'ai fait une médiumnité publique, j'ai eu cette sensation que, effectivement, ben, il n'y aurait pas du tout d'incorporation. Et quand on m'a dit, bon, il te reste 10 minutes, je dis ok. Je dis bon, effectivement, ce soir, il n'y en aura pas. Et puis je sens une énergie, et puis paf, je reparle à quelqu'un d'autre, et puis une deuxième personne. Mais dans ma tête, c'était clair que ben, bon, il n'y aurait pas d'incorporation ce jour-là. Et donc j'allais conclure, et là j'entends mon guide qui me dit, allez, on y va. Allez, on, d'accord. Mais je sais toujours au dernier moment, c'est pas moi qui vais provoquer ça. Et aucun des médiums dont je vous ai cité est capable de provoquer une incorporation. On peut pas. C'est pas nous qui le décidons. On peut même pas le demander. Moi, si je demande... parce que c'est pas moi qui vais juger si vous êtes capable de le recevoir. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand ça arrive, c'est que c'est juste à ce moment-là. Même si c'est bouleversant. Il y en a une qui s'est produite il y a quelques mois... dans le Lot, où après j'aurais voulu récupérer la dame pour en discuter avec elle. J'ai pas pu, elle est partie trop vite. Puis vous savez, souvent après la conférence, les gens viennent voilà, discuter avec vous, vous poser des questions, et j'ai pas pu raccrocher cette dame. Mais cette incorporation me bouleverse encore. C'est son enfant de 9 ans qui était parti, qui a commencé à lui parler, et puis d'un seul coup il m'a dit je veux lui parler en direct. Donc j'ai dit ok, vas-y. Il s'est incorporé et pour dire à sa mère, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Et je sais pourquoi il a fait ça, je le comprends en tant que médium, je le comprends bien. Mais je me dis, c'est waouh, c'est... Et là, pourtant il lui a dit, vous voyez, même là les mots sont restés, laisse-moi partir, mais je te promets je reviendrai, mais laisse-moi partir. Et en fait, tout... On ne peut pas désirer une incorporation, on ne peut pas savoir quand elle va se produire, on peut juste, nous, accepter qu'elle se produise. Mais tous les médiums dont je vous ai parlé, et moi-même, on est extrêmement attentifs à l'impact que ça a sur les autres. Et notre rôle, c'est aussi quelque part de pouvoir en discuter derrière avec la personne, de pouvoir... vérifier que la personne elle part avec le cœur léger et pas avec quelque chose qui l'a trop bouleversé. Et là, j'estime que moi j'ai pas fait mon boulot à cette dame là.
Insupportable pour elle aussi, hein, elle a senti le poids sûrement de cette femme. Elle est partie.
Bien sûr.
Elle a voulu d'autres messages.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi en tant que thérapeute,
voilà. J'estime
pas avoir fait mon boulot complètement.
De
pas avoir accompagné, c'est ça. On est là pour enfin tous les médiums que j'ai contactés et on est d'accord là-dessus sur cette nécessité de vérifier l'impact que ça a sur les gens, de s'assurer que on les accompagne derrière. Quand je vous disais qu'on ne peut pas le provoquer, qu'on ne peut pas le désirer, l'année dernière, j'ai une dame, après ma conférence, qui, dans les questions-réponses, me dit « Mais c'est une incorporation que j'ai vécue, je suis allée à un match, elle déteste le rugby ou le foot, et elle est allée le jour de... Enfin, en hommage à son mari qu'elle avait perdu, enfin, qui elle était très, très attachée, et d'un seul coup, elle a senti une énergie en elle, s'est retrouvée comme les autres supporters, debout, à crier, machin, mais vraiment en sentant que c'était quelqu'un d'autre qui faisait ça. » Elle me dit, c'est une incorporation que j'ai vécue. Je dis, oui, certainement. Et là, j'ai de suite eu le message, attention, danger, et j'ai su qu'il a fallu que je dis, mais Exactement. Et j'ai dit à cette dame, mais ok, vous avez vécu une incorporation, mais ne le désirez pas. Ça s'est produit, votre mari vous a montré qu'il était présent, mais le but, c'est pas qu'il continue à vivre à l'intérieur de vous, enfin, pas de cette façon-là. Vous ne pouvez pas désirer ça. Vous ne pouvez pas désirer même que ça recommence. J'ai dit, attention, vous ne mettez pas ça en tête. Je vous ai dit que cette particularité, cette disposition demande beaucoup de respect. Tous, autant qu'on est, on est dans une confiance totale envers nos guides et on sait que de l'autre côté, on est respecté. Denis, il me disait qu'il s'est battu longtemps avec ses guides pour ne pas être connecté 24-24. Parce qu'il estime que, comme moi d'ailleurs, on est là, d'accord là-dessus. Moi, quand on me dit des fois, bah, vous êtes médium, bah oui. Oh, qu'est-ce que vous percevez sur moi? Rien. Bah, si vous êtes médium, j'ai non. Je ne suis pas connecté 24-24. Voilà. J'ai le droit de vivre aussi. Et Denis, alors moi, je n'ai pas eu ce problème avec mes guides parce que voilà, vous avez bien compris que je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup. Donc, ils ont été obligés d'aller progressivement. Mais lui qui avait tout ouvert d'un coup. Il s'est vraiment battu avec eux pour ne pas être connecté 24-24. Pour ne pas être dans cette connexion permanente. Mais du coup, c'est accordé. Et quand Véronique, quand Denis demande à ce que les incorporations se fassent avec beaucoup plus de douceur, qu'ils n'aient pas cette sensation trop violente dans le corps, de l'autre côté, ils régulent. Voilà. Moi, quand je leur ai demandé, j'ai dit, ok, je veux bien, mais vous me donnez l'avant, enfin... Voilà. Ok, il y a des signes avant coureurs qui vont nous permettre de doser les choses. Il y a toujours un immense respect entre le monde invisible et nous. Le dernier point, c'est quand je vous dis que la seule réticence de tous ces médiums et moi-même, c'est tout simplement que c'est une particularité qui peut surprendre les gens et qu'aucun d'entre nous n'a envie d'être un phénomène de foire. On n'est pas la dernière bête qu'on montre, voilà, comme ça se fait. C'est-à-dire que on n'a aucune envie que les gens viennent nous voir par curiosité. De toute façon, je pense que si les gens viennent dans cet état d'esprit-là, dans une salle peut-être, mais en consultation individuelle, si les gens viennent nous voir pour cette particularité-là, elle ne se produira pas. Denis, il a quelque chose de particulier, il fait des constellations familiales, et maintenant, en fait, il place des papiers avec des prénoms sur le sol, et il se pose sur le papier, et il défend n'importe quoi. Et il change de papier, et c'est l'autre défunt qui vient et qui part.
Ils sont bien obéissants.
Ah non, pas du tout. Ah non, là aussi, il met ses conditions parce que des fois, ils ont envie de causer les uns avec les autres où le mari n'a pas envie de laisser parler sa femme et puis ça se bouscule à l'intérieur. Et il est obligé de leur dire
Chacun son tour.
C'est non, ils ne sont pas obéissants. Ça, c'est pas vrai. Mais par contre, ils sont respectueux. C'est-à-dire que si on met une barrière, ils la respectent. Et donc voilà, pour finir, donc je dirais en fait pourquoi cette faculté? Tout simplement pour vous prouver encore un peu plus, si besoin est, que cette vie, elle est limitée, mais pas limitée dans la chair, mais pas dans l'âme. Et qu'il y a vraiment une existence qui se produit en dehors, et que cette particularité vous permet de toucher plus profondément chacun d'entre vous. Oui. Place aux questions-réponses. Oui, tout à fait. J'ai déjà une dame là-bas. Pardon, je suis à vous de suite après.
Une personne, quelqu'un novice, on va dire. Pas vous, mais c'est le nom, voilà. Mais quelqu'un de novice... qui est incorporé et que à qui ça arrive, enfin, dans les siècles derniers, ça lui est arrivé, puis ils ont été traités sûrement pour fou, ou n'importe, hein, mais qui revient pas, qui reste, l'âme reste.
C'est pas possible.
C'est pas possible.
C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça serait de la possession.
Oui, voilà.
Mais dans ce cas-là, c'est pas une bonne intention et c'est pas de l'incorporation. Dans l'incorporation, je vous ai dit, il y a vraiment ce... Alors, même si la première fois, on ne choisit pas, comme c'était le cas pour Véronique, et j'ai un jeune médium que j'ai rencontré à qui ça s'est produit, il était en train de visiter, je ne sais pas quoi, avec des amis, et puis d'un seul coup, il s'est mis à parler du lieu, il s'est mis à parler de choses dont il ne maîtrisait pas, et en plus, ça a duré très longtemps. Mais l'âme, elle ressort, elle repart.
Comme la, votre Véronique, là, elle a pu se relever quand même.
Ah, mais bien sûr, heureusement. Non, sinon elle serait encore à genoux sur les trottoirs de Lille depuis 40 ans. Je pense que... Non, c'est pas possible. Parce que les âmes, encore une fois, les âmes qui font ça, il y a énormément de bienveillance. Et pour le médium, et pour les personnes qui sont en face.
Non, après, quand c'est de la possession, la personne... C'est des malveillants, mais la personne, comment elle doit agir?
C'est difficile parce que souvent, la première chose à faire, encore une fois, pour les gens qui sont réellement possédés, parce qu'il y a ceux qui sont persuadés d'être possédés et qui ne le sont pas, ça donne souvent de bonnes excuses pour nos travers. Mais il est évident que hormis le fait de se faire aider par un magnétiseur, par un médium ou autre pour déjà permettre, enfin, faire sortir l'âme qui encombre, après, si la personne ne travaille pas sur elle, si elle ne veut pas soigner ses colères, son absence de volonté de vivre, etc., ça recommencera. Une âme ne peut pas prendre notre corps si on ne lui laisse pas la place. Dans le cadre des médiums dont je vous ai cité et de moi-même, dans cette capacité médiumnique, c'est un deal entre eux et nous. Dans le cadre d'une possession, c'est parce que votre âme a une défaillance, soit dans une émotion négative, soit dans une dépression ou dans un abandon. Il y a des fois des gens voilà, où l'âme, elle ne veut plus vivre, elle veut quitter ce corps, sans pour autant passer à l'acte, hein, d'accord ? Ou du coup, ça crée une faille qui permet à un esprit, pas forcément méchant, hein, encore une fois, hein, c'est pas toujours des esprits mauvais, ça peut être quelqu'un qui se reconnaît dans cette vibration, un esprit dépressif qui a toujours pas compris ce qui lui est arrivé, qui se reconnaît dans cette dépression, qui se reconnaît dans cette colère, et qui du coup va dire, ah ben oui, là j'ai l'énergie que je reconnais, donc je vais rester là. D'accord ? Mais c'est un phénomène... qui peut se produire, mais qui est quand même pas courant. Oui, ça existe, on est d'accord. Mais beaucoup moins que l'imaginaire collectif veut le croire.
Mais ces personnes, elles ne savent pas qu'elles sont possédées. Certaines, elles ne savent pas qu'elles sont possédées.
Oui, bien sûr. Ah, mais de toute façon, quand dans le cadre d'une possession... ça pourrait être tout un sujet d'une conférence complète, mais dans le cadre d'une possession, la personne n'a jamais conscience.
Non, elle n'est jamais consciente de la situation.
Non, de la situation, bien sûr que non. Mais je veux dire par là que des fois, les gens autour vont mettre sur le dos ce terme de possession sur des phénomènes qui n'en sont pas. Sur des blocages psychologiques ou des colères de la personne ou un dysfonctionnement mental aussi, parce que notre cerveau peut très bien avoir des dérèglements mentaux et j'ai déjà eu face à moi des gens qu'on disait posséder et qui c'était pas le cas, d'accord, c'était juste un autre désordre. Donc il faut faire attention quand on met ce genre d'étiquette sur quelqu'un.
Donc la personne...
Et j'ai vu aussi une personne venir me voir avec Parce que c'est pareil, hein, si vous cherchez des exorcistes, ça fleura tous les coins de rue, et pas forcément des bons. Moi, j'ai une de mes... Là, j'arrêterai sur ce sujet-là pour revenir, mais c'est important quand même qu'on en discute. Parce qu'il y a beaucoup d'abus et beaucoup... Je veux dire, dire à quelqu'un que vous êtes possédé, c'est aussi mettre une main sur les personnes. Hein, d'accord ? Moi, j'ai une dame qui est venue me voir, un cas extrêmement lourd. D'accord ? La personne, elle a subi des violences sexuelles de ses 4 ans à ses 18 ans. Donc vous imaginez le traumatisme. D'accord ? On ne joue pas avec ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'un magnétiseur lui a dit qu'il fallait qu'elle aille voir un exorciste. Elle y est allée. Et ce gars lui dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vous avez le diable qui vient dans votre lit toutes les nuits. Mais vous imaginez l'impact psychologique sur cette personne ? Ah non, non, moi, c'est assis devant moi, et je lui regardais un grand sourire, et je lui dis, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter les conneries. Et j'ai déverrouillé comme ça, enfin, pas que comme ça, bien sûr, mais juste en disant cette phrase, ça commençait à déverrouiller des choses. Mais on ne peut pas jouer avec les gens comme ça. Mais c'est facile de... Quand vous regardez... Alors, mais en France, ça existe aussi, hein, mais on voit souvent ça dans les pasteurs, enfin les pasteurs entre guillemets américains, là, qui vont faire croire à des gens l'induction mentale. Je vous dis que vous êtes possédé. Je vous mets cette induction. Et après, je fais tout un tas de grilles, de sons et compagnie.
C'est pour faire de l'argent.
Forcément, votre mental va, comme dans de l'hypnose, votre corps va produire des choses qui correspondent à ce qu'on vous met dans le crâne. Attention avec ces notions, on ne joue pas avec ça. Mais à côté de ça, les vrais, ça peut arriver, bien sûr, mais beaucoup moins qu'on ne le dit. Vous aviez une question, madame ?
Oui, alors, si on prend rendez-vous avec vous, pour des questions précises,
oui.
Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour ça, pour nous répondre.
Alors, moi,
ça n'a rien à voir.
Quand vous venez me voir, je suis toujours connecté, je suis en mode de travail. Mais il n'y aura pas forcément d'incorporation. Oui. Je peux faire de la médiumnité comme je vais faire tout à l'heure.
Oui.
Il y aura... Je ne vais pas faire des incorporations à chaque fois que je vais donner un message à quelqu'un. Je veux dire, sinon, vous me sentez sur une civière. Pas mort, mais bien fatigué, avec une semaine de repos derrière. Non, mais bien sûr, quand je dis que je ne suis pas connecté 24-24, ça veut dire que le soir, quand je suis chez moi... Quand je suis dans mes phases de repos, je ne suis pas en mode boulot.
Il a une débranche.
Je débranche. Oui, madame.
Oui, vous avez parlé de Cap Vert. C'est quoi ?
Cap Vert, c'est une île. C'est une île. C'est une île qui est au large du Sénégal. Non, oui, parce que les Cap Verdiens, ce sont les habitants du Cap Vert. Pardon.
J'ai écouté mon père, c'est parti au Brésil. Ma mère, c'est en Argentine.
Une autre question ? Non, ils sont partis à discuter, donc je pense que non.
Une question à poser pour que.
Oui.
Je fais une consultation.
Excusez-moi, Jean-Pierre. Oui. Pas forcément. Vous pouvez avoir un esprit qui vous traverse, que vous sentez effectivement, sans que ça soit de la médiumnité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un jour vous avez, comme vous pouvez sentir une main qui vous se pose sur vos cheveux, sans être médium pour autant. D'accord ? C'est une sensation très particulière, mais qui peut effectivement arriver comme ça, quand quelqu'un a vraiment envie de vous faire prendre conscience qu'il existe quelque chose d'autre. Questions ? Bon. Alors, pour la partie suivante, pour la partie médiumnité publique, vous mettez une photo par personne si vous avez sur le... Alors, s'il vous plaît, vous me mettez face cachée. Moi, j'aime pas voir les photos des gens. Oui, que des personnes décédées, pas des personnes vivantes. Parce que... S'il vous plaît, après vous discuterez autant que vous voulez. Si vous n'avez pas de photos. Excusez-moi, mais c'est. Si vous n'avez pas de photos et que vous voulez mettre un prénom sur un morceau de papier, vous pouvez aussi. Mais pareil, vous cachez le prénom. D'accord ? Si enfin vous voulez juste. Pas un contact avec vos défunts, mais. Sont indisciplinés. Non, mais c'est désagréable pour tout le monde, excusez-moi. Si vous souhaitez par contre peut-être juste avoir un message de votre guide, vous mettez votre prénom et question à mon guide. D'accord ? Pas la question précise. Enfin, si vous avez une question précise, mais à mon avis, ça sera pas, c'est pas forcément là-dessus qu'ils vous répondront. Mais juste vous mettez votre prénom en marquant en dessous question à votre guide. D'accord ? Et toujours pareil, face cachée.
Et est-ce que tu fais, ça se pratique parfois, la question-réponse, les personnes aiment le voir, est-ce que tu veux
Je
ceux qui n'auront pas.
C'est possible, on verra.
D'accord. Bon, on fait pause de 20-25 minutes. Je ne sais pas.